Europe 1, votre matinale info.
Pierre de Villeneuve.
Bonjour Marguerite Lefebvre.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
7h sur Europe 1.
C'est l'âge d'or des vols habités qu'on vit en ce moment. Les gens ne se rendent pas compte. On regarde beaucoup en arrière pour les années 60 et les missions vers la Lune. Mais dans quelques années, on aura fait quelque chose d'encore plus ambitieux.
Dans 5 jours, sa fusée décollera de Cap Canaveral pour rejoindre la Station Spatiale Internationale. Thomas Pesquet vit ses derniers instants sur Terre, confiné pour ne pas contaminer l'ISS.
Complotiste et déjà suivi par le renseignement pour des projets d'action violente, les trois ravisseurs de la petite Mia sont toujours en garde à vue. Ils auraient agi sur ordre de la mère.
98% des résidents d'EHPAD ont reçu leur première dose de vaccin, il réclame désormais un assouplissement des restrictions sanitaires.
Et puis le football avec Lille qui ne conserve pas son avance. Le LOSC a fait match nul hier soir et le PSG se rapproche.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Comme il y a 5 ans, il y a fort à parier que l'on suive son séjour au rythme de ces incroyables photos. Comme une bouffée d'air frais dans une station pourtant hermétique, Thomas Pesquet va repartir dans l'espace cette semaine.
Le spationaute français s'envolera jeudi prochain depuis le centre spatial Kennedy en Floride. Il vit donc ses tout derniers préparatifs avant le grand jour. Damien Mestre.
L'avion vient d'atterrir sur le tarmac à son bord. Les 4 coéquipiers de la mission Alpha et parmi eux Thomas Pesquet, combinaison bleue impeccable, siglée du logo de l'Agence spatiale européenne. On est sur le mythique Cap Canaveral en Floride. C'est d'ici que la capsule de SpaceX décollera dans moins d'une semaine, le jeudi 22 avril à midi et 11 minutes, très précise. Une fois en apesanteur, Thomas Pesquet racontera son quotidien, commencer là-haut dans le ciel, à nous qui sommes restés sur Terre. C'est ce qu'il a promis une nouvelle fois devant les caméras du monde entier.
Moi, je pense que c'est l'âge d'or des vols habités qu'on vit en ce moment. Les gens ne se rendent pas compte. On regarde beaucoup en arrière pour les années 60 et les missions vers la Lune. Mais dans quelques années, on aura fait quelque chose d'encore plus ambitieux. Cette aventure, on n'essaie pas de la vivre égoïstement, mais on essaie vraiment de la partager.
D'ici là, l'astronaute est à l'isolement. Rien à voir avec le Covid. C'est la procédure classique pour ne pas emporter de maladie dans l'espace. Ultime étape, donc, avant ces 6 mois à bord de la Station Spatiale Internationale.
Voilà pour ce récit des derniers préparatifs. Signé Damien Mestre. Thomas Pesquet s'élancera donc avec la fusée SpaceX du milliardaire Elon Musk. SpaceX a d'ailleurs été choisi par la NASA pour envoyer les prochains astronautes sur la Lune. Ce serait une première depuis 1972.
Plus près de nous, un rendez-vous à ne pas manquer sur Europe 1 à 9h. Le ministre de la Justice sera l'invité de Frédéric Taddeï.
L'occasion pour Éric Dupond-Moretti de défendre sa réforme de la justice présentée mercredi dernier en Conseil des ministres. Elle prévoit notamment d'enregistrer les audiences ou encore de supprimer les remises de peine automatique.
Et c'est un projet qui est d'ores et déjà dénoncé par les magistrats. Écoutez Sarah Massoud, secrétaire nationale du syndicat de la magistrature.
L'institution judiciaire est très affaiblie. L'institution judiciaire a besoin de moyens, a besoin de juges. L'institution judiciaire a besoin d'être comprise. On a des prisons qui sont surpeuplées, on a des collègues qui sont à bout de souffle. On est dans une vision très gestionnaire du service public de la justice. Donc aujourd'hui, en fait, c'est sur ces sujets de fond qu'on a envie de discuter. C'est pas une question d'Éric Dupond-Moretti ou pas Éric Dupond-Moretti. Là, c'est une question de comment rendre une justice de façon plus efficace et plus humaine et plus proche des gens. Donc on est très attaché à ces principes-là et aujourd'hui, on voit encore que ce projet de loi, cet énième projet de loi, ne répond pas à ces exigences. En fait.
Sarah Massoud du syndicat de la magistrature au micro hier de Sébastien Krebs et donc le ministre de la Justice, notez-le, sera l'invité de Frédéric Taddeï à 9h.
Dans les Vosges, les enquêteurs sont toujours à la recherche de la petite Mia et de sa mère.
Le procureur évoque une fuite vers l'étranger. Cette mère n'avait plus le droit de voir sa fille seule. Elle aurait commandité le rapt, contacté 3 ravisseurs qui, eux, ont été arrêtés. 3 hommes dont les profils ont de quoi intriguer. Arthur Mbaché.
Chez l'un d'entre eux, les enquêteurs ont retrouvé le script, le texte qu'il fallait dire à la grand-mère de Mia pour obtenir sa confiance et repartir avec l'enfant. À l'origine de ce scénario, qui a parfaitement fonctionné mardi, la mère de la fillette qui a trouvé et recruté ses hommes de main sur Internet, dit le procureur d'Épinal Nicolas Heitz, et qui a récupéré sa fille 20 minutes seulement après l'enlèvement.
Il n'est pas à exclure qu'elles aient pu quitter le territoire national. Notre département, les Vosges, n'étant pas très éloigné de plusieurs frontières. Des diffusions internationales ont bien entendu été réalisées pour faciliter leur localisation et leur appréhension. Mon parquet a également émis des demandes d'entraide pénale internationale en urgence absolue, dans le détail desquelles vous comprendrez naturellement qu'il m'est impossible de rentrer.
La plaque d'immatriculation d'une des voitures des kidnappeurs a été relevée par un témoin ici dans les Vosges mardi. Or, cette plaque est enregistrée dans les bases de données des services de renseignement, la DGSI. Ces hommes, proches de l'ultra-droite, faisaient même l'objet d'une enquête du parquet national antiterroriste. C'est grâce aux informations de ces services qu'ils ont été repérés et arrêtés. Épinal, Arthur Elbaché, Europe 1.
Il est 7h05, la troisième vague de Covid n'est pas encore derrière nous, mais il y a de quoi espérer ce matin. Certains indicateurs s'améliorent.
Oui, voyons le verre à moitié plein. Le taux d'incidence, qui est encore très élevé, n'augmente plus. Et le taux de reproduction du virus est repassé en dessous de 1. Il y a ces signaux encourageants, d'autant plus que la vaccination se poursuit.
Près de 12,5 millions de Français ont déjà reçu une première dose. Dans les EHPAD, c'est le cas de 98% des résidents.
Les résultats, certains réclament un assouplissement des règles sanitaires en EHPAD. Écoutez Pascal Chanvert, le président de l'Association des directeurs au service des personnes âgées.
Certains sont dans des zones qui sont aujourd'hui encore difficiles et puis d'autres ont vécu un tel traumatisme qu'ils sont un peu arc-boutés sur l'hyperprotection, souvent d'ailleurs à la demande de certaines familles. Ce que nous pensons, nous, c'est qu'il faut transformer les établissements en domicile. Il ne faut plus avoir des établissements dans lesquels un directeur, une directrice, quelques salariés peuvent imposer des autorisations ou des interdictions à des résidents sous peine qu'ils soient ensuite poursuivi pénalement s'il y a eu des décès ou des malades. Beaucoup de directeurs sont effectivement traumatisés parce qu'ils ont été poursuivis en justice pour n'avoir pas fait assez. Alors du coup, ils en font trop, bien entendu. C'est ce système qui est fou. Nous pensons qu'il faut aller vers le maximum d'assouplissement possible.
Pascal Chanvert de l'Association des directeurs au service des personnes âgées.
Les élections régionales se tiendront bien au mois de juin, mais une semaine plus tard que prévu.
Pour laisser le temps à la vaccination de se poursuivre, petit changement et gros casse-tête pour certains maires à Mur-de-Bretagne dans les Côtes-d'Armor. Le 27 juin, jour du second tour, eh bien tout le village et ses environs seront bloqués à cause du Tour de France. Charles Guyard.
Ça se grimpe, un mur. Les coureurs arrivent à grimper. J'espère qu'en tant qu'élu et à organiser les élections, je vais y arriver aussi à grimper ce mur de difficulté.
Mur de Bretagne, 2500 habitants, 3 bureaux de vote et le Tour de France. Voilà l'équation infernale à laquelle est désormais soumis Hervé Lelu, le maire de cette commune des Côtes d'Armor, qui dimanche 27 juin sera donc ville d'arrivée de la deuxième étape de la Grande Boucle, le même jour que les élections régionales et départementales. Un mur de difficulté donc qui concerne même tout le département.
Au-delà de la population muroise, la dernière fois c'était 100 000 spectateurs quand même sur Mur de Bretagne. Donc en plus, supposer que c'est 100 000 qui ne vont pas voter. Mais toutes les villes traversées aussi, hein, elles sont aussi bloquées pour accéder. Quoi. Les gens qui vont venir au tour vont choisir le tour, mais pas l'élection, ça c'est clair.
Illustration avec ces quelques habitants croisés au hasard qui ont bien retenu la date, mais pas pour le scrutin.
Le dimanche 27 juin, le Tour de France, puis les élections, je ne pense pas que j'irai voter.
Le vélo.
Vous n'irez pas voter donc?
Je ne pense pas, non.
Ah bah, le Tour de France, de toute façon, ça c'est clair.
Reste qu'au-delà des votants, ou plutôt ici des non-votants, se pose aussi la question de l'organisation avec les bénévoles mobilisés pour les deux événements.
C'est souvent les mêmes personnes qui sont à la fois à tenir les urnes et aussi à s'occuper des parkings et de la sécurité du Tour de France.
Et la solution idéale pour le maire serait d'obtenir un décret pour avancer le scrutin de 24 heures, comme cela se fait en Outre-mer.
Il va falloir pédaler, et la tête dans le guidon.
Mur de Bretagne, Charles Guyard, Europe 1.
Et il y a les régionales dans 2 mois et la présidentielle dans 1 an. La gauche se réunit ce matin à Paris. Il sera question de l'éventualité d'une candidature commune.
Oui, c'est l'idée, même si certains ténors de gauche ont déjà carrément pris les devants. Je recevrai à 8h15 Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste.
On parlait d'espoir tout à l'heure sur le plan sanitaire. Il y a de quoi se réjouir également sur le plan économique. Dans le monde, la reprise est en route. La Chine vient d'annoncer une croissance record, plus 18%. Comment ça s'explique, Carole Ferry?
Alors c'est surtout un rebond mécanique, puisque cette croissance est comparée au premier trimestre de 2020. Or à l'époque, souvenez-vous, la Chine était déjà en pleine pandémie, avec ses usines totalement à l'arrêt. Cela montre tout de même que le pays est reparti. L'activité a repris depuis près d'un an maintenant en Chine et la dynamique se poursuit, tirée principalement par les exportations chinoises. Mais pas seulement, la consommation intérieure est également en hausse et ça, c'est une bonne nouvelle pour nos entreprises françaises. C'est le cas de l'équipementier Valeo, selon son président Chine, François Marion.
Les Chinois, ils achètent des voitures électriques. Ils achètent des véhicules avec des systèmes d'assistance à la conduite qui rendent la voiture plus sûre, plus agréable à conduire. Les consommateurs chinois sont dans une très très forte confiance en l'avenir, une très forte volonté de consommer. Et la voiture fait partie de cette demande de consommation.
Alors sur l'automobile, les Allemands sont quand même globalement mieux placés que nous pour en profiter. Le secteur vraiment gagnant en France, c'est celui du luxe. Les consommateurs chinois sont responsables de la moitié du rebond des ventes de luxe dans le monde, avec un impact direct pour LVMH, Hermès ou encore Kering.
Carole Ferry, merci. Au Royaume-Uni, cérémonie, les obsèques du prince Philippe seront célébrées cet après-midi dans la chapelle du château de Windsor, avec seulement 30 invités en raison de l'épidémie.
On passe au foot avec un faux pas hier soir.
Oui, le leader Lille a fait match nul face à Montpellier, un partout et un point glané au lieu de 3. Voilà qui pourrait coûter cher. Écoutez l'entraîneur Christophe Galtier.
Mais oui, voilà, jusqu'à la fin, il va falloir se battre. On a laissé filer des points. Est-ce qu'on a laissé filer des points? Est-ce qu'on en a gagné un? À vous de juger. Mais nos concurrents devront faire le parcours parfait pour nous passer devant et que nous, il nous reste 5 matchs maintenant. À l'heure où je vous parle, on a pris un point sur tout le monde. On verra bien dimanche soir à 22h55 avec tous les arrêts de jeu. On verra bien, on fera le bilan de la journée et on repartira dans une semaine où on va se préparer pour une grande confrontation dimanche prochain à Lyon.
Christophe Galtier, l'entraîneur de Lille, avec Sébastien Bouet.
Et vous reconnaîtrez bien sûr ce générique déjà culte. 10 ans que la série Game of Thrones a débarqué sur les écrans.
7 familles qui se disputent un seul trône. Les derniers épisodes ont rassemblé plus de 45 millions de téléspectateurs aux États-Unis. La série, on peut le dire aujourd'hui, est un triomphe. Margot Barallon.
Un grand succès, c'est d'abord du grand spectacle. Les créateurs de Game of Thrones ont voulu concurrencer le cinéma avec un budget colossal, jusqu'à 15 millions de dollars par épisode, pour mettre en scène des batailles épiques et des dragons.
Nous allons reprendre tout ce qui m'a été volé et anéantir ceux qui m'ont fait du mal. Nous allons ravager des armées.
En arrivant après l'adaptation du Seigneur des Anneaux au cinéma, Game of Thrones a profité du retour en grâce de la fantasy. La série a su aussi saisir l'air du temps selon Nicolas Allard, spécialiste de pop culture.
On est depuis le début du 21e siècle dans un certain désamour de la politique. Game of Thrones, justement, correspondait bien à cette volonté de décrypter la politique. Et d'ailleurs, c'est le personnage de Tyrion Lannister, qui est l'un des personnages les plus aimés des fans, qui incarne cet intérêt justement pour le pouvoir, pour l'application du pouvoir, mais aussi pour la conquête de celui-ci.
Avec le piratage, certaines saisons de Game of Thrones ont dépassé le milliard de vues, un record jamais égalé depuis. Attendue prochainement, la série adaptée du Seigneur des Anneaux, qui a coûté 1 milliard de dollars à Amazon, espère bien lui ravir la couronne.
Margot Barallon.
Merci Marguerite Lefebvre. À tout à l'heure pour le journal de 8h. Nous irons à nouveau devant le château de Windsor, où on enterre le prince Philippe, et puis nous resterons en France, où les restaurateurs, eux, sont toujours dans le flou. 7h12.